Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous écoutez le podcast de Ça commence aujourd'hui, réalisé par France Télévisions. Bonne écoute à vous. Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette émission en direct sur France 2 comme tous les vendredis. Nos invités n'étaient que des enfants quand l'un de leurs parents s'est donné la mort. Des enfants qui ont dû grandir et se construire avec ce drame bien trop lourd à porter pour leur si jeune âge. Ils vont nous raconter toutes les étapes par lesquelles ils sont passés, la tristesse bien sûr, la colère et le sentiment d'abandon. Quel impact cette épreuve a eu sur les adultes qui sont devenus aujourd'hui, à l'occasion de la journée mondiale de prévention du suicide qui aura lieu demain, ils ont accepté de prendre la parole et de nous raconter leur histoire. C'est une émission importante pour tous ceux qui nous regardent et qui sont dans cette situation. Bienvenue à tous dans Ça commence aujourd'hui. Bonjour Julia.
Bonjour.
Bonjour Angèle.
Bonjour.
Bonjour Yann.
Bonjour.
Et bonjour Elisabeth.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner dans cette émission sur un sujet qui est lourd, qui est important. On va évidemment remuer des choses très fortes en vous, mais encore une fois, votre parole est précieuse puisque de nombreux téléspectateurs se retrouvent dans cette situation. Ils vont pouvoir se reconnaître dans vos histoires et vous allez voir aussi qu'elle soulève ces histoires beaucoup de questions dans lesquelles on peut tous se reconnaître également qu'on ait connu un parent qui se soit suicidé ou pas. Donc merci encore une fois vraiment pour votre tante Natacha Espier qui va vous accompagner avec des mots très rassurants et des conseils bienveillants, comme à chaque fois. Et nos invités également, nos téléspectateurs vont nous accompagner aujourd'hui. Vous savez qu'on est en direct. Le hashtag, c'est CCA. Si vous voulez intervenir sur les réseaux sociaux, vous n'hésitez pas. On va diffuser vos messages tout au long de cette émission. N'hésitez pas, surtout, puisque nos invités ont besoin également de votre soutien, si c'est le type de message que vous voulez envoyer. Alors, Julia, c'est une histoire bouleversante que vous êtes venue nous raconter cet après-midi. Histoire d'une petite fille qui a grandi sans sa maman et dans le secret des circonstances de son décès. Vous avez accepté de nous raconter votre histoire à travers des images que vous nous avez confiées. C'est vous qui avez pris la parole, donc on découvre Julia par Julia.
Je m'appelle Julia. Je n'ai jamais vraiment connu ma mère puisqu'elle est décédée un vendredi 13 septembre 1985, lorsque j'avais 7 mois. À l'époque, on m'a parlé d'un accident de train. J'ai grandi en l'imaginant, à travers les photos qu'on me montrait, les récits que je tirais parfois difficilement, de mon père, de son frère, sa sœur, son père et d'autres personnes. Elle s'appelait Christiane, elle aimait voyager, prendre des photos et envoyer de longues lettres à ses amis. Elle était un peu babacool et elle adorait la nature. Elle et mon père se sont rencontrés fin 1980, avant qu'elle parte pour un tour de l'Amérique du Sud pendant un an. À son retour, en 82, ils ont très vite habité ensemble, dans l'Essonne. Et moi, j'ai pointé le bout de mon nez en février 85. Les récits, les photos et les vidéos m'ont toujours montré une femme pleine d'amour, d'attention et de douceur. Et c'est avec ces images que j'ai imaginé ma mère. Et quand j'ai eu 10 ans, on m'a montré un autre visage de ma mère et révélé des parts beaucoup plus sombres. Et ça a bouleversé ma vie.
Ça va?
Oui.
Vous lui ressemblez beaucoup à votre maman?
Je sais, on l'a souvent dit.
Et ça, c'est compliqué pour vous à entendre?
Plus maintenant. Ça l'a été pendant longtemps.
Pourquoi?
Parce que quand vous découvrez que votre mère s'est suicidée et que toute votre vie, avant ça, on vous a dit que vous lui ressembliez, vous vous dites, c'est ce qui va se passer.
Oui, je comprends. Vous aviez 7 mois hein, quand votre mère a disparu. Qu'est-ce qu'on vous avait dit à l'époque? Enfin, pas à 7 mois, mais qu'est-ce qu'on vous a dit toute votre vie avant de découvrir la vérité sur les circonstances de la disparition de votre maman?
Alors, ils avaient fait un mensonge pas éloigné de la vérité. Ils m'ont dit qu'elle était morte, écrasée par un accident de train. Or, ma mère s'est suicidée en se jetant sous un train. Donc, on n'était pas trop loin de la vérité, mais ce n'était pas exactement la vérité.
Et dans quelles circonstances vous avez appris la vérité, alors?
La vérité, je l'ai découverte parce que ma tante, qui partait vivre à l'autre bout du monde, a décidé de me raconter ce qui s'était passé. Elle avait demandé l'accord à mon père avant. Et j'avais 10 ans. Et elle m'a dit, écoute, il faut que je te dise quelque chose d'important. Ta mère s'est suicidée. Mais il y avait des fissures dans le mensonge qui étaient passées pendant ces 10 années.
C'était quoi ces fissures?
Par exemple, une proche, un membre de ma famille qui, un jour, dans une engueulade, m'a dit, je comprends pourquoi ta mère s'est suicidée alors que j'avais 7-8 ans.
Vous ne saviez pas ce que ça voulait dire, ce mot, à cette époque-là?
Disons que on comprend pas vraiment pleinement ce que ça implique. On peut lire la définition, on comprend que c'est quelqu'un peut-être qui s'est donné la mort, mais on ne comprend pas pleinement tout ce que ça veut dire.
Il y avait des petites graines qui avaient été semées.
C'est ça, et puis c'était un sujet qui était souvent évité. Comment elle est morte, comment l'accident a eu lieu.
Tout ça, c'est tabou, parce qu'il y avait beaucoup de non-dits.
C'était des réponses que je n'avais pas. Ce n'était pas tant que c'était un tabou, c'était vraiment que c'était un évitement. On n'en parlait pas, on répondait à côté.
Et à 10 ans, quand on a prononcé ces mots, ça a été un choc immédiat ou il vous a fallu le temps de la digestion pour...
Paradoxalement, en fait, sur le moment, ça a été un choc, surtout parce que je ne savais pas du tout à qui faire confiance. C'est-à-dire que j'avais l'impression que pendant 10 ans, l'ensemble de ma famille m'avait menti, sauf une personne qui avait été malveillante envers moi en me disant des mots très blessants. Donc, à qui faire confiance dans ces circonstances ? Je ne sais pas. Et puis... Après, en fait, il y a eu le moment du choc passé. Ben, en fait, je comprenais pas tout ce que ça allait impliquer, mais c'est surtout un sentiment d'écrasement et de peur et l'impression qu'en fait, c'est ce qui va m'arriver aussi, également.
Quel genre d'enfance vous avez eu auprès de votre père, donc ?
J'ai eu une enfance, on va dire, normale. Jusqu'à l'âge de 10 ans, en fait, pour moi, ça a toujours été intégré que ma mère était morte. J'ai jamais... découvert la mort de ma mère. Ça a toujours été un état de fait, en fait.
Elle était très présente dans votre foyer ou on n'en parlait pas beaucoup ?
On en parlait peu, pour tout un tas de raisons, parce que mon père était quelqu'un d'assez pudique, déjà. Donc, parler de ma mère, il n'osait pas forcément en parler. Ensuite, parce qu'il s'est remis en couple très vite. Et donc, sa compagne, parfois, était mal à l'aise avec ce sujet. Donc forcément, ça venait pas. Et puis, en fait, j'en parlais surtout avec son frère, sa sœur, son père, donc mon grand-père, mes oncles et tantes, avec qui j'en parlais. Mais eux, ils me parlaient de qui elle était, mais pas forcément, en fait, de ma mère, de celle qu'elle était bien avant ça.
Elle vous a manqué, cette maman ? Parce que ma question, en fait, quand on n'a pas connu sa mère, parce que vous aviez à peine 7 mois, parfois, certains de nos invités nous disent « j'avais pas ce que c'était qu'avoir une maman ». Et certains autres nous disent, bah oui, j'ai vécu avec ce manque cruel. Comment vous, ça s'est passé pour vous,
Julia ? Je dirais qu'en fait, moi, je ne m'en suis pas rendu compte.
Oui, c'est ça.
En fait, pendant des années et des années, je ne me suis pas rendu compte ce que c'était. Et puis, en fait, il y a des moments, j'étais avec des amis qui avaient des mères très aimantes. Et je me disais, waouh, en fait, c'est ça, une mère ? Ah, waouh, oui, ça a manqué dans ma vie. Mais je n'avais pas la sensation de manque, en tout cas au quotidien, d'une personne que j'avais aimée et que j'avais perdue.
Après cette révélation à 10 ans, est-ce que vous êtes tournée tout de suite vers votre père pour avoir des explications, une fois que votre tante vous a dit ça ?
J'ai essayé, mais en même temps, il n'avait plus grand-chose à dire. C'est-à-dire que mon père était quelqu'un qui était plein d'amour, plein d'attention, mais il ne savait pas comment parler de ce qui s'était passé à ma mère, pour ma mère.
Parce que vous lui avez demandé pourquoi ? Vous avez demandé à cette tante, mais pourquoi elle s'est suicidée ?
Oui, et à l'époque, en fait, ma tante a dit quelque chose qui était tout simple. Elle fait, ta mère est morte suite à une dépression qui a commencé peu après ta naissance.
Oh !
Donc, il y avait aussi ce sentiment de responsabilité qui a été annoncé.
Évidemment.
Et puis, elle a été un peu maladroite aussi ce jour-là, parce qu'elle m'a dit, mais il faut que tu comprennes que ta grand-mère aussi avait des problèmes, puisque j'ai appris ce jour-là que ma grand-mère était maniaco-dépressive. Et aussi que la mère de ma grand-mère, à l'époque, était qualifiée d'hystérique, enfin, avait des crises d'hystérie, mais en tout cas, elle était quelqu'un avec aussi des problèmes mentaux.
Sous-entendu.
Et donc, en fait, voilà, la prochaine, c'est toi.
Ouais, lignée diabolique, quoi.
Donc, lignée diabolique à 10 ans, on entre dans l'adolescence, j'étais au collège à ce moment-là. Vraiment, c'est le moment parfait pour apprendre ce genre de détails sur sa vie et sur sa construction. Et puis, surtout, en fait. Oui, je me suis mise à poser des questions à mon père, mais il n'avait pas forcément les réponses. Je me souviens que la première fois que je lui ai demandé « Mais papa, pourquoi elle a fait ça ? Pourquoi elle n'allait pas bien au point de se donner la mort ?» En fait, il m'a dit « Je sais, est-ce qu'elle était... » J'ai demandé si elle était malade. Il m'a dit « On ne peut pas vraiment parler de maladie. On ne peut pas vraiment dire ça. Elle ne se sentait pas bien. Elle était triste. » Et en fait, c'était un homme de son temps aussi. C'est que en années 80,
pas reconnu la dépression comme une vraie maladie.
La dépression, le postpartum, c'était pas quelque chose dont on parlait nécessairement. On parlait de baby blues, qui semble totalement ridicule en fait comme mot quand on voit les conséquences que ça.
Bien sûr.
Et au fur et à mesure des années, oui, j'ai essayé de tirer les fils. Et puis c'était un sujet très douloureux pour mon grand-père. encore aujourd'hui, c'est un sujet qu'on a du mal à aborder avec lui. Et pour son frère et sa sœur, ils en parlent plus librement, mais il y a des choses qu'ils ont découvertes en fait, récemment ou qu'ils reconstruisent récemment.
Quelle responsabilité sur les épaules d'une petite fille de 10 ans, ce sentiment de culpabilité qui lui est tacitement transmis, quoi.
Projeté, là. Enfin, projeté, voilà. C'est beaucoup ça. D'informations traumatiques oui. En une seule fois. C'est-à-dire que bah, vous avez grandi avec l'idée... une tout à fait autre idée, et brusquement, c'est un vrai secret de famille, brusquement, puisque vous avez l'impression d'avoir du coup grandi sur des sables un peu mouvants, c'était pas la vérité, et en plus, c'est une réalité extrêmement traumatique. C'est-à-dire, on vous dit, votre mère s'est suicidée, et la lignée maternelle ne va pas bien.
Et à 10 ans, et au moment où on a même pas, on s'est même pas construite, quoi.
Mais comme vous dites très bien, c'est même pas le début de l'adolescence. C'est
ça. Quel impact ça a eu sur votre vie de petite fille? Je dis même pas jeune fille, à 10 ans, on est une petite fille.
Pendant les deux années après cet événement, enfin, je ne sais pas pourquoi, mais à cette époque, mon cerveau est rythmé par la vie scolaire.
Donc, oui,
je visualise les moments par la vie scolaire. Pendant les deux années scolaires, de ce moment de ce secret et l'année d'après, il y a eu des incidents. Il y a eu des incidents avec mon prof d'allemand, avec qui j'avais des comportements insolents. Il y a eu des mots que j'ai cachés. Il y a eu des très mauvaises notes. Enfin,
vous avez décroché.
C'est pas que j'ai décroché, c'est vraiment j'avais des moments
de quoi
dire, je saurais même pas dire. C'est comme une forme de violence que je m'infligeais. J'avais envie de marquer le coup, j'avais envie d'être en colère, j'avais envie de manifester que bah en fait tout va pas si bien.
Vouliez-vous punir aussi?
Je sais pas trop. Franchement, je saurais pas dire si j'avais l'intention de me punir. Mais ce que je sais, c'est que je faisais clairement des conneries. Voilà. Et à un moment, mon père a eu la sagesse de se dire bah on va peut-être arrêter. Ouais. Et donc de m'emmener chez un psy, tout simplement, toutes les semaines. À partir de l'âge de, j'avais 12 ans et demi, 13 ans, quand j'ai commencé. Et en fait, ça m'a sauvé la vie, vraiment. Parce que toutes les semaines, je le voyais, une demi-heure, ce docteur. Et en fait, c'est quelqu'un qui m'a permis en fait, de traverser cet âge. Alors bien sûr, je ne lui parlais pas tout, parce qu'à cette époque-là, j'avais du mal à parler de tout. Mais en tout cas, je déposais suffisamment de choses pour réussir à fonctionner et pour réussir à, en tout cas, sortir des sentiments de colère ou des sentiments de culpabilité permanents.
Vous avez diabolisé ces émotions qui ont pu mener au geste dramatique de votre mère. Vous avez dit, moi, il ne faut pas que je ressente des choses trop fortes puisque ces émotions-là ont conduit à ce geste.
Oui, totalement. C'est exactement ce qui s'est passé. En fait, j'avais peur des émotions extrêmes.
Bah oui.
J'avais peur, quand j'étais trop heureuse, j'avais peur qu'il y ait le versant du
même dans le cas des émotions positives.
Hein. Des émotions positives, ah ouais. Les émotions excessivement négatives, tout ce qui avait attrait à la dépendance d'une manière ou d'une autre, la cigarette, l'alcool, les drogues, c'était quelque chose qui me faisait très peur, ouais. Parce que j'avais peur de la perte de contrôle et même de tomber amoureuse. Aussi plaisant en fait que le sentiment soit, quand j'avais des sentiments trop forts pour un garçon, je freinais des cas de fer.
Ah ouais.
Parce que j'avais l'impression que si je ressentais les émotions tellement fort, adolescence plus, je suis quelqu'un qui est très expressif et très émotionnel. Voilà, le combo en fait me semblait être voué à l'échec en fait en quelque sorte.
Donc vous avez grandi complètement gainé, vous interdisant de ressentir quoi que ce soit et dans un contrôle anormal de vos émotions.
Totalement. Et puis en fait, j'avais mis en place parce que bah il y a bien un moment, hein, faut bien trouver des moyens de les gérer, ces émotions. Donc, en fait, j'utilisais souvent la nourriture comme espace de défoulement, mais toujours dans le contrôle. C'est-à-dire que quand je mangeais, j'ai jamais eu des crises d'hyperphagie tellement fortes qu'en fait, j'ai fini par faire des surpoids soudains qui alertaient les gens. J'avais toujours été dans le contrôle. Puis, à partir de 15 ans, j'ai commencé à avoir une sexualité assez libérée pour mon âge, avec plusieurs partenaires. Et vraiment, la sensation qu'en tout cas, le sexe m'apportait un relâchement d'émotions, mais dans un cadre limité ou contrôlé. Parce que c'est vrai
c'est
que
fou, ça, ce contrôle d'émotions. Et finalement,
ce relâchement d'émotions, cette expression enfin d'émotions à travers la sexualité.
Alors, le contrôle, on peut le comprendre parce que c'est de l'incompréhensible total ce qui s'est passé. On ne comprend pas pourquoi quelqu'un se suicide. Donc, vous avez probablement dans l'idée que vous allez contrôler les choses, que ça ne vous arrivera pas parce que, pas d'apport trop fort. Et après, je ne sais pas vraiment si c'est un relâchement. Moi, je dirais que vous aviez besoin de l'effet un peu calmant. Et comme vous ne vouliez pas avoir affaire avec de l'alcool ou des drogues, bon, au fond, la nourriture et le sexe, ça amène pas une substance toxique en plus de tout. Donc, je pense que c'était plutôt à effet calmant qu'autre
chose.
Voilà.
Une forme de sédatif.
Voilà, exactement. Une forme de sédatif un peu sans risque du produit, si je puis dire.
Vous aviez rencontré personne qui était dans cette situation, qui avait perdu un parent ?
Si, mais pas en tout cas dans les mêmes circonstances que moi. Enfin, dans le sens, pas d'un suicide. Je connaissais des enfants de mon âge dans ma classe qui avaient des parents morts, mais pas en tout cas d'un suicide. C'est venu plus tard. Quand je suis arrivée à la fac, quand j'ai quitté la maison, et dans ma première année d'études, dans la ville de Bordeaux, après être partie...
Une fac de quoi ?
Une fac information communication.
Ok, non, mais je suis curieuse.
Voilà. J'ai rencontré, en fait, un garçon qui avait vécu, en tout cas, le suicide de sa mère et la mort... très brutale de son père, dans des circonstances très compliquées. Et en fait, un soir, après une soirée très, très arrosée, on discutait et on s'est mis à discuter de ça jusqu'à 5 heures du matin sur un bout de rue. Et je ne sais pas pourquoi, mais cette discussion et cette rencontre avec lui, elle a complètement changé ma vie. Enfin, je pense que je lui dois énormément de mon bonheur d'aujourd'hui.
Pourquoi ?
Que le fait que d'avoir vu quelqu'un qui avait vécu, en tout cas... des morts violentes et des morts de suicide, un suicide d'un de ses parents. Et surtout de voir en fait que lui aussi avait cette peur de reproduire les choses et qu'il vivait avec cette peur. Mais quand même pas, en fait, lui, il n'était pas dans le contrôle permanent. En fait, je me suis dit, moi aussi, je peux. Oui. Moi aussi, je peux m'autoriser de faire d'autres choses et je peux essayer en tout cas d'explorer. Et j'ai retrouvé beaucoup de joie, en fait, après l'avoir rencontré et c'est toujours un ami très proche et c'est le parrain d'une de mes filles.
Ça a été un moment pivot. Hein.
Oui, clairement. Cette première année à Bordeaux, pour tout un tas de raisons, quitter mon père après des années, on avait une relation très fusionnelle. C'était quitter le foyer, symboliquement, c'est quelque chose. Quitter mon environnement familial qui me rappelait régulièrement que je lui ressemblais. Devenir moi, en fait, en quelque sorte.
Ouais,
c'est un peu ça, quand on quitte le foyer familial, on devient un peu sa propre personne. Et en fait, rencontrer cette personne qui peut me détacher un peu de la personne que j'étais, ça m'a vraiment apporté énormément.
Vous n'aviez pas des propres mots de votre mère. Elle n'a pas laissé de textes, de messages, de lettres à votre père ou à l'entourage pour expliquer son geste ?
À l'époque, on n'avait rien. En fait, à l'époque, on n'avait rien trouvé, à ma connaissance. En tout cas, mon père ne m'en a jamais parlé. Mon oncle et ma tante n'avaient pas trouvé grand-chose. Pourtant, c'était quelqu'un qui écrivait. Beaucoup au quotidien, des mots par-ci, qui écrivait des lettres à plein d'amis et ainsi de suite. Et en fait, elle était... Elle parlait beaucoup. Eux avaient vécu des moments avant, mon oncle, ma tante, mon père, dont ils m'avaient parlé, mais des lettres ou des récits, ils n'en avaient pas vu. Mais il se trouve que quand mon père est décédé en 2012, j'ai récupéré accès à ses affaires en 2013. Et en vidant une cave qui était beaucoup trop remplie, j'ai retrouvé un carton qui était classé comme mon père savait si bien classer ses papiers, c'est-à-dire absolument pas. Et il y avait 1 milliard de choses dans cette boîte, mais vraiment, des publicités, des vieilles ordonnances, et au milieu d'une pochette avec des ordonnances et des feuilles de soins qui n'avaient jamais été envoyées à la Sécurité sociale, je retrouve un mot écrit par ma mère qui est daté en fait de 5 jours avant sa mort. Et qui mettait des mots pour la première fois, en tout cas, ses mots à elle, pas les interprétations des autres, sur ce qu'elle était.
Et alors, elle disait quoi, cette lettre ?
Ça tombe bien, vous m'avez demandé de l'amener, donc je peux la lire.
Dites-moi.
Donc, voilà. Dimanche 8 septembre, je n'ai plus qu'une idée dans la tête, mourir, et pourtant, je n'en ai pas le droit. Je regarde la vie d'un regard, d'une façon très détachée, sans aucun intérêt, sans aucun goût. Je suis totalement prostrée, sans réaction. La vie, pour moi, ça n'a plus de sens. Alors que j'ai une adorable petite fille, un mari qui m'aime. Mais la vie des hommes ne m'intéresse plus. Jusqu'à présent, j'ai été très forte. J'étais heureuse de vivre. Que s'est-il passé après cette naissance ? mais je me sens devenir folle, inerte, sans vie, sans ressources. Mon organisme est complètement déréglé. Je ne veux pas de la folie. Sans ma fille, je ne suis plus rien, mais je ne sens tellement plus rien.
Elle est bouleversante, cette lettre.
Elle est bouleversante parce que, premièrement, elle dit immédiatement qu'il y a eu un changement après sa naissance.
Après vous.
Après moi. Donc, en tout cas, le ressenti des proches de ma mère à ce moment-là, qui a été que quelque chose a changé après la naissance, est avéré. Vraiment par des mots qui viennent d'elle, pas seulement par des gens qui me rapportent des propos. Donc déjà, elle est bouleversante pour cette raison-là. Et ensuite, parce que les mots sont durs. Les mots sont durs à entendre. De se dire qu'en fait, malgré l'amour, elle n'avait plus de raison de vivre. Elle n'avait plus de désir de vie. C'est très compliqué, en fait, d'être confrontée à ça. Même quand moi, j'ai eu des épisodes dépressifs dans ma vie, je n'ai jamais ressenti ce tel désir de mourir qu'elle met dans ces mots-là. Et ça, la découverte de cette lettre, ça bouleversait beaucoup de choses. D'abord parce que j'avais découvert que j'étais enceinte 2 jours auparavant. Donc, ça a un peu, on va dire, orienté ma décision de garder ou non le bébé à ce moment-là. Et ensuite, au-delà de cette orientation, j'ai compris à quel point son désespoir était sans fond, en fait.
Est-ce que, c'est pas le mot, mais de réaliser à travers ces lettres, cette lettre, à quel point elle était dans une souffrance extrême, vous réalisez, c'est rassurant de se dire que c'était vraiment son choix et que ça n'était pas un jour de détresse en plus. Est-ce que quelque part, vous avez dit que c'était vraiment une détresse profonde et elle a décidé vraiment de partir, en fait. C'était un vrai choix et pas une décision ou un...
Ce qui est, en fait, c'est je sens spontané. Que vous mettiez le mot choix, mais jamais je ne l'ai jamais utilisé, en fait, ce terme. Moi, la manière dont je l'ai ressenti, c'est qu'elle était arrivée au bout du chemin. En fait, elle ne se sentait plus capable. Et ce n'est pas vraiment qu'elle fait le choix de mourir, c'est qu'en fait, elle ne peut plus vivre. C'est pas, elle décide pas de mettre fin. Elle ne peut plus. Elle n'en a plus la capacité.
Ouais, je comprends.
Ces mots...
Elle n'a plus le choix.
C'est ça. Ces mots, c'est ce qu'ils disent. Ouais. Elle n'a plus cette capacité-là. Et en fait, en même temps que j'ai retrouvé la lettre, j'ai retrouvé d'autres lettres, j'ai trouvé son agenda de l'époque. Immédiatement, quand j'ai retrouvé la lettre, j'ai appelé mon oncle et ma tante. C'est son frère et sa sœur que j'ai vus le jour même. Et en fait, ils se sont mis à souvenir des quelques jours auparavant. Ma tante se souvient que ce fameux dimanche, en fait, elle a vu ma mère. Et ma mère lui a demandé, « Ah, mais au fait, après le travail, est-ce que tu pourrais aller chercher, Julia ?» Et le frère de mon père s'est souvenu qu'à un repas une semaine auparavant, elle lui avait dit que si jamais il leur arrivait quelque chose, elle aimerait bien, en fait, qu'il s'occupe de moi. Et ainsi de suite. Et on se rend compte qu'en fait, elle avait...
Prémédité.
Au-delà de la préméditation, c'est qu'en fait, elle voyait son désespoir tellement profond qu'elle s'assurait, en tout cas, que moi, on s'occuperait de moi. Paradoxalement, en
Par
fait...
Par amour.
Exactement. J'ai ressenti énormément d'amour aussi dans
ce geste. Oui, je comprends ce que vous nous expliquez, bien sûr. Quel genre de maman ça a fait de vous ?
Une mère très bavarde. Quand j'ai eu premièrement, une mère qui a été très angoissée par l'idée de tomber enceinte. Ouais. Parce que qu'est-ce que la grossesse allait déclencher chez moi ? Ouais. C'était une grande peur. Et malgré toute ma préparation, malgré tout, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai quand même fait une dépression postpartum. J'ai allaité parce que je voulais maintenir mes hormones. J'ai eu des hallucinations. Donc ça a été vraiment une grosse alerte. Mais... j'ai été très entourée de gens qui m'ont donné des bons conseils, mais des fois entourée par juste la puéricultrice de ma fille à la crèche, qui je lui dis je vais pas bien, ça va pas, et elle me dit mais parlez-en à votre fille. Et j'ai parlé à ma fille et bizarrement ça allait mieux en fait. Donc mes filles sont conscientes que leur grand-mère est morte, elle aussi. Pour elles c'est un état de fait. Voilà. Christiane, mamie Christiane, elle est morte depuis toujours. Il y a pas de chose. Mes filles ont conscience aussi qu'elle s'est donné la mort, parce qu'on en a parlé, en tout cas celle de 6 ans, on en a parlé à plusieurs reprises. Celle de 3 ans, ce n'est pas un sujet qu'on a encore abordé, mais en tout cas, voilà. Et en tout cas, suis une maman qui parle énormément des émotions. Quand ma fille est désorientée, perdue, qu'elle ne sait pas, qu'elle a des temps de colère et ainsi de suite, je m'attache vraiment à ce qu'elle essaye de comprendre ce qui est en train de se passer.
Un mot sur de quelle manière on doit en parler aux enfants? Est-ce qu'il est important, même dès le plus jeune âge, de parler de, peut-être pas forcément le mot suicide, et encore, pourquoi pas, se donner la mort, pour ne pas qu'on se retrouve dans une situation comme celle de Julia, mais même pour les petits-enfants?
Oui, oui, c'est très important de dire vraiment. Alors, évidemment, avec des mots adaptés à chaque âge. Hein. On ne va pas dire la même chose, excusez-moi. On va trouver des images, on va trouver d'autres mots, mais c'est extrêmement important parce que, comme pour vos filles, ça fait partie de leur histoire. Ce qui fait du mal, c'est quand ça ne fait pas partie de l'histoire et à ce moment-là, c'est le choc. Donc, il faut vraiment, même si c'est difficile, hein, c'est, ça peut être difficile aussi pour le parent qui reste parce que c'est un parent qui est endeuillé. Et comment va-t-il pouvoir expliquer ça à ses enfants ? Mais c'est absolument nécessaire pour préserver l'enfant et pour l'aider à grandir et à se construire malheureusement avec ce qui fait partie de sa vie, c'est-à-dire le suicide d'un de ses parents.
Angèle, j'écoutais Julia en me disant que Julia n'avait jamais été en colère. Est-ce que vous avez été en colère ?
Oui, moi j'ai été en colère. Mais c'est encore différent parce que moi j'ai perdu mon père quand j'avais 9 ans. Du coup, je l'ai connu pendant 9 ans et en fait, cette colère est venue du fait que je n'ai pas compris son geste. Parce que pour moi, vous avez mis le mot choix tout à l'heure, mais pour moi, c'était un peu lui qui avait pris la décision et le choix de partir. Et c'était un choix que je ne comprenais pas et que je ne voulais pas accepter.
Quel genre de relation vous aviez tous les deux ?
On avait une bonne relation. Moi, je suis l'aînée de ma fratrie. C'était un père qui était très présent, qui jouait avec nous, qui nous emmenait... au parc, qui nous emmenait beaucoup en randonnée aussi, beaucoup dans la montagne. C'était quelqu'un qui aimait bien être dehors. Et ouais, j'ai passé énormément de moments avec lui pendant mes 9 ans. Et c'est vrai que quand il est parti, ça a été incompréhensible. Et cette incompréhension a amené énormément de colère.
Incompréhensible parce qu'aujourd'hui, vous imaginez bien la raison pour laquelle il a décidé de mettre fin à ses jours ?
Alors, c'est un peu compliqué, mais je comprends le cheminement qui l'a amené à ça. Après, le fait qu'il soit passé à l'acte, je ne le comprends pas. Parce que moi-même, j'ai traversé des... Parce que du coup, il est rentré dans une dépression profonde. Et c'est suite à cette dépression qu'il a décidé de se suicider. Mais moi-même, j'ai traversé une énorme dépression. Et en ayant traversé cette dépression, je crois que j'ai compris son état, mais j'ai encore moins compris son action. Parce que même moi, en ayant voulu mourir, je ne l'ai quand même pas fait. Parce que je me disais toujours, non, il y a ma mère, il y a mon frère, ma sœur, il y a mes amis. Je ne peux pas faire ça.
Ouais, je comprends.
Mais ouais.
Qui vous l'a appris ?
La mort de mon père ?
Ouais.
C'était un peu des circonstances particulières. En fait, ma mère et mon père s'étaient séparés quelques mois avant. Et mon père s'est suicidé, il me semble... Alors, je ne sais plus si la rentrée avait déjà eu lieu, mais en tout cas, c'était en septembre. C'était pour ma rentrée de CM2. Et en fait, on devait, comme tout bon parent séparé, on faisait une semaine chez l'un et chez l'autre. Et là, on avait passé les vacances, une partie des vacances avec ma mère. Et là, on rentrait chez mon père. Et en fait, elle nous a déposés en bas de l'immeuble. À l'époque, du coup, c'était moi la plus grande. Donc, c'est moi qui gérais les valises, le téléphone portable. Et ma mère m'avait dit, s'il y a un problème, tu m'appelles si jamais ton père ne répond pas ou je ne sais pas. Et en fait, on est partis avec mon frère et ma sœur devant l'appart, on est arrivé, il y avait énormément de musique, beaucoup, beaucoup de bruit. Ouais. On a sonné, ça n'a pas répondu, et on a attendu, puis on a ressonné, toqué et tout. Et en fait, on a compris à ce moment-là, tous les trois, qu'il était mort. On a vraiment ressenti ça devant la porte. On s'est dit, c'est fini. Donc là, on a appelé ma mère, on lui a expliqué la situation, elle est venue. Nous, elle nous a mis chez la gardienne, parce que c'était un énorme immeuble où il y avait une gardienne et elle nous connaissait bien. Donc, on a attendu là-bas. Et c'est ma mère qui a géré l'appel des pompiers, l'appel de la famille, tout ça, tout ça. Et après, quand les pompiers ont déclaré que mon père était mort, je ne sais plus qui nous l'a dit précisément, parce que je me souviens juste qu'on était tous les trois chez ma gardienne et qu'il y a d'un coup toute la famille qui rentre en pleurs. Tout le monde pleure, donc on comprend... très vite, même s'il n'y a pas les mots qui sont dits, l'émotion. Quoi.
Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête de petite fille de 9 ans ?
Sur le moment, on ne comprend pas grand-chose. On pleure beaucoup, mais on ne comprend pas trop ce que ça implique, la mort, parce que c'est quelque chose qui est très...
Abstrait.
Abstrait, ouais, on le voit dans les films, ce genre de trucs, mais quand on ne l'a pas vécu, on ne sait pas ce que ça représente, surtout à 9 ans. Et c'est plus tard, quand j'ai réalisé que je ne le reverrai plus. C'est ça qui a été le plus dur, ouais, de me dire que c'est vraiment fini, quoi.
Quand est-ce que la colère vous a envahi?
Je pense que la colère a été toujours un peu là quand j'étais enfant, mais elle est surtout beaucoup venue à l'adolescence.
Mais contre lui, la colère directement qui lui était destinée?
J'avais un peu de la colère contre tout, globalement, mais j'avais beaucoup de colère, ouais, contre mon côté, on va dire, familial, du côté de mon père. Ouais. J'avais énormément de colère contre lui, contre sa famille. C'était quelque chose qui... C'était pas, on va dire, un lieu dans lequel j'étais à l'aise. C'était compliqué.
Vos parents s'étaient séparés, vous pensez que c'est un lien?
Avec le suicide de mon père? Alors, non. Enfin, dans le sens où il y a eu beaucoup de gens dans ma famille qui ont essayé de nous faire dire que c'était justement parce que ma mère s'était séparée de mon père que mon père s'était suicidé. Mais aujourd'hui, en grandissant et en réfléchissant et en ayant énormément discuté avec ma mère, je me rends compte que ça a été peut-être la dernière goutte d'eau, mais c'était clairement pas le récipient du problème, quoi.
Je voulais savoir justement si à un moment vous lui en avez voulu à votre mère.
Alors, j'en ai vraiment pas voulu à ma mère parce qu'on discute énormément. C'est une... enfin, pour le coup, comme toi, c'est une mère qui discute beaucoup, qui est beaucoup dans l'émotion, dans la discussion, la prise en charge. Et on a toujours eu un cercle familial très... très positif et très aimant. Du coup, non.
Vous avez pu en parler dans ce cercle familial? C'était devenu un sujet tabou ou au contraire, on parlait, on mettait des mots, des remous, des émotions?
Non, avec ma mère, c'était pas du tout un sujet tabou. Déjà, directement après le suicide de mon père, il n'y a pas beaucoup eu de délai jusqu'à ce qu'elle nous emmène chez le psy pour en parler. Et puis même, tous les quatre, on en parlait beaucoup, beaucoup. Elle nous disait tout le temps un truc bête, mais par exemple, si dans la nuit, on pleure et qu'on est triste, on peut venir la réveiller. Même s'il est 4-5 heures du matin et qu'elle travaille demain, c'est pas grave. On vient et on la réveille.
Ça, c'est une chouette maman.
Ouais.
Le mot suicide, vous arriviez à le prononcer à l'époque?
Alors, c'est marrant, mais en gros, je savais pas l'écrire à 9 ans. Et du coup, on demande toujours une petite fiche quand on rentre à la rentrée pour montrer, enfin pour dire ce que font nos parents.
Ouais.
Et moi, je savais pas quoi mettre pour mon père. Et donc, j'avais rien mis. Et en fait, il y a une prof très maladroitement qui était venue me demander pourquoi j'avais rien mis. Et donc, je lui ai expliqué. Et en fait, j'ai voulu écrire suicide, mais je ne savais pas. Donc, elle me l'a écrit au tableau. Et ça a été un peu dur de me dire, sur toutes les fiches de toutes les rentrées, il va falloir que j'écrive ça.
C'est horrible.
Ouais.
Ça, c'est une violence un peu.
Et mais du coup, au début, c'est vrai que ce mot, je ne le comprenais pas trop. Mais c'est en grandissant que j'ai plus compris ce que ça voulait vraiment dire, quoi.
Vous êtes sentie abandonnée par votre père. Et est-ce que, par conséquent, ça a été dur de faire confiance à un autre homme plus tard?
Forcément. Moi, j'ai vécu ça comme un abandon parce que, comme pour moi, dans ma tête, c'était un choix qu'il avait fait de partir. Pour moi, c'était son choix de nous abandonner.
Oui, on parle de choix et finalement, ça a un sens dans votre histoire à vous. Mm-hmm.
Et du coup, je ne sais plus quelle était votre question. Pardon.
Si vous avez eu du mal à faire confiance
aux hommes après. J'ai eu du mal à faire confiance aux hommes. Alors, clairement pas à mon petit frère, ça n'a eu aucun souci. Mais, ou mon grand-père maternel. Mais sinon, pour le reste, c'était beaucoup plus compliqué dans mes relations amoureuses ou même amicales. Ça a été complexe. Je n'ai pas eu d'amis proches hommes jusqu'à très tard.
De quoi vous aviez peur?
J'avais peur qu'ils partent. Clairement. Mais je sais que c'est toujours une peur en moi, même si j'en suis consciente et que je travaille dessus, mais c'est toujours une peur de me dire que si je me mets avec quelqu'un et que j'essaye de construire une relation, qu'elle soit amicale ou amoureuse, j'ai toujours peur que cette personne parte. Et quand ça arrive, ça me fait énormément de mal et je sais que je réagis de façon disproportionnée, mais c'est parce que derrière, il y a un traumatisme.
Oui. La peur de l'abandon, la peur de l'attachement.
Oui, oui, c'est ça, la peur de l'attachement. La personne qui est censée être toujours là pour ses enfants,
les
parents, disparaît et choisit volontairement de disparaître. Donc déjà, ça, vous avez peur de l'abandon, évidemment. Et ça introduit une dimension vraiment de précarité dans la vie. Et donc, évidemment, si on s'attache, il y a un risque d'abandon. Donc, on n'a pas envie de s'attacher pour pas être abandonné. Mmh. Et ça, c'est vraiment très dur.
Est-ce que vous en parlez? Pourquoi vous avez fait le choix aujourd'hui d'en parler publiquement?
Parce que j'ai beaucoup avancé sur ce sujet dernièrement. C'est vrai que moi, pendant très très longtemps, j'ai beaucoup mis de côté le fait d'en parler, mais aussi d'y penser. Pendant extrêmement longtemps, je faisais tout pour clairement m'abrutir le cerveau. Le soir, je regardais des émissions jusqu'à très très tard. Je pensais jamais. Et en fait, c'est au moment où j'ai quitté mon foyer familial que je me suis mis à beaucoup plus réfléchir parce que j'avais beaucoup plus de temps libre et beaucoup moins de gens autour de moi pour discuter quand j'étais seule. Et en fait, je me suis beaucoup posé de questions sur du coup pourquoi ce choix de mon père, pourquoi avoir choisi de partir. Et ça a été très dur. Bah, ça m'a amené à un épisode dépressif très compliqué en école d'ingénieur. Et
pendant cet épisode dépressif, vous avez pu penser vous aussi à mettre fin à vos jours?
Ouais. Du coup, j'ai fait deux gros épisodes dépressifs et clairement, à chaque fois, oui, j'y ai pensé.
En ayant derrière la tête l'idée que votre père l'avait fait, alors pourquoi vous ne feriez pas?
Non, enfin, disons que j'y pensais, c'était extrêmement fort, mais c'est comme un fil. À chaque fois, je me disais non, parce que je connais les conséquences. Moi qui suis un enfant d'un père suicidé, je sais ce que ça fait que d'abandonner ses proches et je ne veux pas qu'ils aient ça, quoi. C'est pas possible. Moi qui ne veux jamais blesser personne, clairement, je ne vais pas faire ça pour les autres. C'est pas possible.
Vous me disiez, après des périodes dépressives, vous avez fait le choix d'en parler à ce moment-là?
Oui, j'ai décidé, parce que Internet m'a beaucoup aidée. Parce que sur Internet, j'ai trouvé des témoignages d'autres gens. Parce que dans ma vie, moi, j'avais rencontré personne qui avait... Enfin, comme toi, j'avais rencontré des gens qui avaient des parents qui étaient morts, mais pas de suicide. Et du coup, grâce à Internet, j'ai découvert ça. J'ai découvert des gens qui ont témoigné sur YouTube et ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien. Et aujourd'hui, je suis sur un grand chemin d'amélioration sur ce sujet. Je suis très contente déjà de pouvoir en parler sans pleurer, de pouvoir même mettre des mots comme ça à l'oral. Et ouais, c'est un grand sujet actuellement pour moi dans ma vie parce qu'en plus de ça, je suis autrice de BD. Ouais. Et depuis quelques temps, je travaille pour essayer justement de mettre tout ce passage de ma vie en livre et pour justement parler du suicide, mais aussi parler de l'avant et de l'après. Ouais. Parce que l'après est très compliqué.
Quelle place aujourd'hui tient cette histoire et votre père dans votre vie, dans votre cœur?
Ça s'est beaucoup apaisé. Parce que, comme je disais, j'avais beaucoup de colère, mais...
Vous n'êtes plus en colère contre votre père?
Je pense toujours un peu. Il y aura toujours un petit fond, peut-être. Mais rien à voir par rapport à avant. La preuve, avant, je ne me souvenais pas de souvenirs positifs. J'avais que des souvenirs négatifs avec lui.
Vous aviez fait un tri, en fait.
Ouais, un gros tri. Et en fait, c'est en travaillant sur cette BD, en faisant vraiment une liste de souvenirs pour me dire, tiens, qu'est-ce que je vais mettre dedans, que d'un coup, tout est revenu. Où je me suis dit, ah, mais il m'avait emmené là. Ah, mais ça aussi, ah, mais ça aussi. Et du coup, tout est revenu comme ça. Et c'était hyper plaisant de me rendre compte que ouais, on avait eu plein de moments de ouf.
C'est plaisant de se laisser réenvahir, oui, par les bons souvenirs. Je savais pas que la colère pouvait comme ça rendre aveugle sur un passé avec quelqu'un, parce que on est tellement en colère qu'on ne veut plus, on fait le choix aussi de ne pas se souvenir des choses positives parce qu'on veut rester sur sa colère.
Bah, on est très en colère, évidemment. On a parlé de l'abandon, mais au fond, alors c'est sans jugement bien sûr sur ses parents qui se suicident, mais un parent qui se suicide, il fait passer sa douleur à lui, qui est incommensurable, avant la vôtre qui va arriver. Mm-hmm. Et c'est ça qui provoque la douleur. C'est-à-dire qu'on se dit qu'il ne s'est pas projeté pour vous tous dans l'après et dans cette douleur énorme. Exactement. Donc bien sûr qu'il y a de la colère, et tout l'enjeu après, comme dans un deuil, l'enjeu c'est où est-ce qu'on va pouvoir mettre la personne en nous, c'est-à-dire le souvenir de cette personne. Et pour vous, toute la difficulté c'est de retrouver un parent qui n'est pas réduit à la personne qui s'est suicidée, mais un bon parent qui était là avant, comme vous, Julia, vous avez retrouvé des photos, vous aviez cette impression de cette femme solaire, etc. Et vous, vos souvenirs, comment est-ce que on va pouvoir remettre à l'intérieur de soi un bon parent, entre guillemets?
Ouais. Vous êtes reparti en randonnée?
Oui, beaucoup.
Ouais. Ah, mais c'est pas innocent comme question. Peut-être est-ce que vous avez voulu faire des choses qu'il faisait? Est-ce que aujourd'hui vous êtes un peu plus en paix? Vous avez voulu vous reconnecter à ces souvenirs communs?
Oui, parce que du coup, du côté de mon père, on vient de l'immigration italienne. Et moi, c'était quelque chose que je ne pouvais plus faire, parce que pendant mes 9 ans, ils m'emmenaient quasiment chaque été en Italie, dans ma famille. En plus, c'est un village où on vient tous de là, donc on se retrouvait tous entre cousins, cousines, avec tout le monde. Et moi, c'est vrai qu'à partir du moment où il est parti, j'y suis retournée une fois, et puis c'était tellement dur que j'ai plus jamais voulu y aller. Malgré ça, j'avais pris italien comme deuxième langue au lycée et au collège, mais j'étais nulle parce que je voulais, en fait, je crois que je voulais pas apprendre.
Ouais.
Je voulais pas faire l'effort de parler cette langue. Et aujourd'hui, je suis contente. Je prends des cours d'italien. J'essaie de lire des choses en italien. Et je suis partie en Italie avec mon petit frère cet été à vélo. Et ça faisait du bien de me retrouver là-bas, quoi, parce que ça faisait longtemps.
Vous lui parlez à votre père ?
Non, non, parce que je me souviens plus de lui, quoi. Enfin, c'est ouais. compliqué. Moi, j'ai pas des souvenirs visuels, on va dire. Moi, ma mémoire, elle est plus auditive et gustative. Du coup, c'est vrai que de mon père, j'ai pas trop de souvenirs. Je me souviens de sa voix, mais voilà. Mais par exemple, ça, c'est une étape que je voudrais faire cette année ou potentiellement l'année prochaine, c'est de réussir à aller sur sa tombe.
Pourquoi vous n'y êtes toujours pas allée ?
J'y suis allée que deux fois. Une fois pour son enterrement et une fois plus tard, quand j'étais en terminale.
Et pourquoi c'est difficile ?
Parce que je crois que c'est un peu trop réel de se retrouver devant cette tombe, devant la date et tout.
C'est fou que l'émotion arrive à ce moment-là.
Oui. Pardon.
Vous excusez pas. Ça dit beaucoup de choses. D'où le fait que vous avez envie d'y arriver, en fait.
Ouais, parce que... Pardon. Non, parce que c'est pénible de... Comment dire ? En fait, je pense que j'avais mis tous mes sentiments du côté négatif pour mon père, parce que c'était beaucoup plus simple de pardonner quand je pensais que c'était un mauvais père, entre guillemets. Mais maintenant que je sais que c'est quelqu'un qui a pris énormément soin de ses enfants, c'est encore plus compliqué à accepter.
Oui, je comprends.
Excusez-moi.
Non, vous excusez pas. Il y a des Kleenex derrière les photos.
Oui, c'est vrai. C'est juste que je suis maquillée et je n'ai pas envie de tout...
De gâcher ça, je comprends. Le pardon, hein, le pardon, je vais vous laisser respirer. Mais le pardon, ça, c'est une vraie question. Est-ce que vous avez pardonné à votre mère, Yann ?
Oui.
Ah, ça, c'est un grand oui.
C'est un grand oui.
Et vous a fallu combien de temps pour pardonner à votre
37
mère ?
37 ans.
37 ans. Bon, vous avez encore un peu de temps. Vous avez encore 10 ans, oui. Ah, vous avez 37 ans, vous, Julia, je crois.
Oui, c'est mon âge.
Ah, ouais, vous ne voulez pas que je le dise, peut-être.
Non,
c'est trop tard, je ne peux pas gommer.
J'ai aucun problème avec ça. Mais c'est intéressant de parler de pardon, parce que, en fait, vous disiez tout à l'heure que je n'ai pas ressenti de colère. Moi, j'ai ressenti de la colère
ouais.
quand j'ai ma fille.
Mais moi, j'allais dire que moi, ma plus grande peur de la prochaine... Enfin, le prochain grand étape de mon deuil, je pense, c'est si un jour j'ai des enfants.
Ouais, parce que quand j'ai eu ma fille, en fait, la voir à plein d'étapes pendant les 7 mois qui ont correspondu à mon existence, et en fait, la voir grandir et me dire « Putain, mais c'est pas possible, comment elle a pu faire ça, en fait ? Comment elle a pu faire ça quand elle avait ça devant elle ? Comment elle a réussi ? Comment elle a réussi à passer le cap alors qu'elle avait un bébé aussi ?» C'est mignon, un bébé, je veux dire. C'est mignon, ça sent bon, ça tient chaud, ça vous empêche de dormir, mais c'est incroyable.
Et puis surtout, on est responsable de cet enfant.
Totalement ça, mais c'est, je veux dire, c'est vraiment... Et pourtant, enfin, voilà. Et à 7 mois, j'avais des poussées de rage, des vraies poussées de colère, de rage. Et donc, et le pardon, il est venu justement une fois que j'ai passé toutes ces étapes. Ouais. Maintenant, j'ai pardonné. D'ailleurs, ma deuxième fille... aucun problème. Le pardon, il est là et c'est pour ça que je peux en parler, c'est pour ça que j'en parle. Mais donc, oui, moi, c'est 33 ans.
Combien de temps il vous a fallu pour pardonner, vous, Yann ?
Moi, je vous ai dit
37 ans.
37 ans, parce que c'est vraiment ça. Alors déjà, je suis un peu interpellé par tout ce que j'ai entendu, parce qu'on vit tous les mêmes choses. Je suis passé par...
C'est pour ça que cette émission est utile, parce que vous incarnez beaucoup.
Et je les ai vécues pleinement avec les mêmes douleurs, avec la même intensité, vraiment toutes. Et moi, en fait, il a fallu que je sois complètement acculé, vraiment au mur, avec toutes les cicatrices qui se trouvent de tous les côtés, pour me dire, là, t'as plus le choix. Là, maintenant, il faut trouver une solution, c'est où tu t'en sors, ou vraiment ça va devenir problématique.
C'est à quel moment, ce moment de chaos dans votre vie, Yann ?
Il y a peu de temps, il y a à peu près... 2 ans. Il y a eu plusieurs étapes qui ont amené en fait des circonstances favorables en fait au retour en fait de ce malheur, parce que un événement comme ce que vous avez évoqué, ce que j'évoque là, c'est moi je l'ai imagé en disant que c'est vraiment un sac à dos en fait que la vie m'a mis sur les épaules et que je n'ai jamais pu enlever en fait.
Quand vous aviez 14 ans, votre mère s'est suicidée.
Donc j'avais 14 ans quand maman s'est suicidée. je savais qu'elle était malade, j'étais au courant qu'elle était maniaco-dépressive. Comme beaucoup d'enfants qui sont au courant que les parents ne vont pas bien, bah on met un voile là-dessus, en fait. Hein. On essaie de se dire que, voilà, que c'est une maman normale et puis que ça va. Et quand elle n'est pas bien, bah on accepte les infos qu'on nous donne parce que c'est les adultes qui le disent déjà, ouais. Parce que ça doit être vrai. Mais moi, j'ai toujours su, en fait, qu'elle n'allait pas bien. J'ai toujours vécu pour accompagner ces périodes de mal-être, parce que j'en ai connu, hein, des périodes où elle n'était pas bien et où on devait vivre à côté d'elle. Et puis voilà, on arrive un jour, après pas mal de tentatives et tas de choses comme ça, à la journée où l'inéluctable arrive et où là, en fait, le vrai chemin commence, en fait, celui de la peine qui ne vous lâche pas tous les jours, où vous êtes dedans, en fait, en boucle. Et ça, c'est très compliqué.
Vous vous souvenez de tout à 14 ans ?
Ah oui, moi, je me suis rendu compte, j'allais dire il y a à peine un an, que, en fait, moi, ma vie s'est arrêtée une première fois à mes 14 ans. Mais quand je dis ma vie, c'est que mon moi de 14 ans, avec ma sensibilité, avec tout ce que j'avais, en fait, s'est stoppé net dès que j'ai appris que ça y est, c'était fait. Et avec, en fait, une ambivalence terrible. Oui, je suis libéré, ça y est, ouf, c'est fait. Maintenant, j'ai plus à attendre. Quand est-ce que ça arrivera ? Et de l'autre côté, mon Dieu, mais pourquoi elle a fait ça ? Parce que c'est terrible.
Pour qu'on comprenne bien, c'est fait, c'est-à-dire qu'elle avait déjà essayé.
Alors nous, on avait été, oui, on a. Enfin, moi, j'ai grandi en fait dans cette violence-là, hein, avec des tentatives. Alors certaines que j'ai vécues, d'autres qu'on nous a cachées, très certainement. Moi, j'en ai vécu une qui a été très traumatique, hein, où un proviseur de collège m'appelle dans son bureau et commence à me demander comment ça se passe à la maison et pourquoi. Il faut que tu rentres vite chez toi, fais attention sur la route, rentre vite. Il s'est passé quelque chose chez toi. Et moi, j'arrive à la maison 4 à 4, j'ouvre et je me retrouve dans une maison qui sent le gaz à plein nez et j'ai 14 ans et je ne sais pas ce qui m'arrive. Et là, je prends vraiment un premier contact direct avec la mort. Je me dis, mais en fait, comment on fait ? Qu'est-ce que je dois faire là maintenant ? Je ne sais pas. Il n'y a personne à la maison. Ma sœur jumelle qui rentre très peu de temps après, paniquée comme moi. Et puis, on n'est pas préparé, quoi. Nous, on ne savait pas, on n'est pas exposé. Et puis après, on saura qu'elle avait laissé une lettre à l'intention de mon frère aîné. C'est super traumatique même pour lui, quoi, parce que voilà, on était tous les trois dans cette espèce d'aventure super morbide dont on savait pas comment ça allait finir en fait. Et puis depuis ce jour-là, j'ai su que c'était qu'un démarrage qui arriverait à une finalité qui serait le jour où.
Et vous lui en parliez pas directement à elle ?
Non, le jour où elle est revenue après cette tentative-là, j'ai senti que quelque chose s'était cassé. Alors, absolument pas dans mon amour par rapport à ma maman, hein, mais dans ma protection. C'est-à-dire, depuis ce jour-là, j'ai eu besoin d'une autoprotection, mais extra forte, pour me dire, le jour où ça va arriver, il faut que tu sois prêt.
Qui vous l'a appris ?
Personne. Ah, pardon.
Non, le jour où c'est arrivé, qui vous a appris que votre mère avait...
Ce jour-là, en fait, j'ai... Bah, les circonstances ont amené le fait que je m'en rende compte quasiment tout seul. Je suis rentré du collège, un super beau samedi matin, ciel bleu, tennis l'après-midi, génial. À d'autres 14 ans, je rentre à fond. Et puis là, les premiers signes qui vous font dire que c'est aujourd'hui, quoi. La voiture de maman, pas là. La voiture de mon père, pas là. Pas un bruit dans la maison. Je rentre. Et puis là, deux canapés en angle, ma grand-mère sur un, mon grand-père sur l'autre, les mains dans la tête, et j'ai dit, OK, c'est bon. J'ai compris.
Qu'est-ce qu'elle avait fait, votre mère ?
Eh bien, ma mère, en fait, elle s'est pendue dans la matinée à son cabinet en fait, de kinésithérapie, et je l'ai appris parce que, quand j'ai compris ça, je suis allé m'isoler dans la cuisine, je me suis assis sur la table, j'ai attendu mon heure, en fait, hein, tout simplement. La seule chose que je voulais savoir, c'est qu'est-ce qui s'était passé, quand. Et puis mon frère qui était rentré là était super courageux. Il a pris le téléphone qui sonnait. Il a été décroché. Et vieux téléphone à l'ancienne avec un volume sonore assez important. Et j'ai entendu, faut que tu t'occupes de tes frères et sœurs. Ta mère s'est pendue ce matin. Voilà. Et là, j'étais à 4 mètres du téléphone. Et j'ai entendu. Et j'ai baissé la tête. Et ce jour-là... Voilà, résonner dans ma tête, t'es tout seul maintenant. Et ces moments-là, je les ai
vous en avez?
Ça va mieux, parce que je l'ai sorti, mais je comprends, comme les filles qui sont à côté, c'est, ça remonte toujours, quoi.
À quel moment ça remonte le plus?
Ça remonte toujours quand, quand on fait face à la légitimité, je dirais. Moi, j'ai eu, comme Julia et Angèle, cette rage hyper violente en moi pendant des années, ce côté, besoin de tout contrôler, de s'isoler, de se protéger, parce que, en fait, quand vous prenez cette vague que je raconte là, vous dites un jour, elle passera, en fait. Un jour, ça ira mieux. Et en fait, vous ramenez ça tout le temps. Et en fait, vous vous rendez compte que cette vague, elle est toujours derrière vous. Donc, c'est une fuite en avant.
Et elle sera toujours derrière vous.
Et elle sera toujours derrière vous, même si maintenant, j'ai réellement, mis des pare-feux un peu partout. Et je sais me protéger. Et voilà.
Vous êtes venue avec votre épouse, Elisabeth. Ouais. Elisabeth, au bout de combien de temps il vous a dit, après votre rencontre, qu'il avait ça, qu'il avait cette vague derrière lui?
Alors, c'est un petit peu ambivalent, dans le sens où, après quelques mois de relation ensemble, effectivement, il m'a parlé de son histoire, de ce qui s'était passé dans sa famille. Mais il n'a jamais mis les mots sur ce qui était arrivé à sa maman. Il ne m'a jamais dit « ma maman s'est suicidée ». Je pense qu'aujourd'hui encore, il est persuadé de me l'avoir dit, mais ces mots-là, je ne les ai jamais entendus. Donc, voilà, j'ai appris ce qui s'était passé réellement par ma belle-sœur, oui, quelques mois plus tard, qui m'a effectivement informée de ce qui s'était passé dans la famille. Mais voilà, donc c'est vrai que...
Pas de sa bouche, en tout cas.
Pas de sa bouche.
Quels sont les événements aujourd'hui? Vous voyez qu'il se le reprend dans la figure, ou ça ressort plus?
Plus tellement aujourd'hui. Je dirais que voilà, des choses se sont passées. Il a pu, par le biais de l'écriture principalement, poser son histoire. Donc c'est plus par rapport à l'avant, on va dire, oui, sur le fait de concevoir la vie aussi, de toujours, comme il l'indiquait, d'être dans des projets, de se projeter toujours, de ne pas regarder en arrière. Mais moi, je prenais ça pour du positif. Pour moi, c'était, oui, Yann, c'était quelqu'un d'extrêmement positif, porté vers l'avenir. Mais je n'ai jamais soupçonné, en fait, que c'était la finalité d'une dualité, en fait, oui, en lui.
Quand Julia et Angèle nous disent, Julia nous dit tout à l'heure, c'est quand ma fille a eu 7 mois ou 6 mois que j'ai réalisé comment elle a pu faire. Vous aussi, quand vous êtes devenu papa, vous avez pris dans la figure cette réalité-là. Comment il a pu faire pour nous abandonner ou pour faire
pas du tout. J'ai jamais pensé ça, en fait. Moi, j'ai très vite compris qu'elle avait eu besoin de le faire. Donc, j'ai vraiment été tout de suite en paix avec son geste. J'ai été extrêmement en colère par rapport à ma propre situation, en fait. Mais j'ai tout de suite su que, de toutes les façons, elle avait un tel mal-être depuis tellement longtemps que sa libération, elle était importante. Ça ne m'a pas posé de problème, en fait.
Est-ce que vous vous êtes observée aussi dans votre vie en vous demandant si vous aviez ce même mal-être?
Non, ça m'a jamais questionné ou traversé l'esprit. Moi, j'ai toujours eu ce besoin de me projeter, d'aimer la vie, d'avancer. Donc, j'ai pas été touchée par cette crainte-là, en fait. Pas du tout.
Et moi, j'ai une question.
Oui,
moi aussi. parce que moi, je sais qu'il y a eu beaucoup de colère vis-à-vis de mon père, mais j'ai eu une autre forme de colère qui est la jalousie. Et je ne sais pas si vous avez traversé ça. En gros, moi, quand je voyais des enfants ou des ados ou des adultes qui ont leur père qui est extrêmement présent, extrêmement aimant, qui est là tout le temps, moi, c'était pendant une période, notamment dans l'enfance, c'était très, très dur, quoi.
Jalousie, je n'ai pas eu, mais par contre... Oh la vache, ils ont de la chance.
Ouais, c'est ça. Vous savez qu'il y a de la chance aussi?
Ouais.
Vos enfants?
Absolument.
Mais ils le savent, regardez.
Absolument.
Coucou papa. Écoute, je pense pouvoir parler à notre nom à tous les trois, Elliot, Amory comme moi, en te disant aujourd'hui qu'on te trouve extrêmement courageux et que très peu auraient pu réussir ce que toi tu as réussi à faire. Personnellement, je suis réellement comblée et heureuse de te savoir enfin en paix avec toi-même, avec ta maman, et savoir que tu as enfin réussi à faire ton deuil.
Oui, c'est vrai ce que dit Anna. Je suis d'accord avec elle. De toute façon, t'as toujours été un père vraiment aimant, investi, protecteur. Et maintenant, je comprends ton hyper-vigilance à notre égard. Et sache que je le respecte, je le comprends, et je suis extrêmement fière de toi.
Oh, fallait me prévenir.
Ils sont incroyables, vos enfants.
Ouais.
Ils s'expriment tout le temps comme ça, ou pas?
Toujours.
Ouais.
Ah, parce qu'ils sont, ils s'expriment merveilleusement bien. Ils ont fait un travail incroyable aussi sur eux.
Ouais, je suis extrêmement en paix de leur avoir transmis la vérité, d'avoir pu échanger avec eux, de leur avoir fait confiance, parce qu'en fait, moi, par contre, j'ai une amie très proche, en fait, qui a vécu la même chose que moi et avec qui j'ai toujours échangé là-dessus. Et elle a été beaucoup plus directement en contact avec ses enfants par rapport à ça. Moi, j'ai jamais pu leur en parler. Jamais. C'était trop, 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 trop fort. Et je voulais même pas essayer, en fait. Et il a fallu que je sorte ce livre pour réussir à... Voilà, tout simplement pour réussir à parler de ça avec eux. Et ça m'a énormément aidé. Énormément aidé.
Ce livre qui pourra aider peut-être ceux qui nous regardent également, ça s'appelle « Maman n'a pas ouvert la porte ce matin-là ». Quel message vous êtes venu nous apporter aujourd'hui, vous, Yann, à tous ceux qui nous regardent?
Moi, j'ai envie de dire que ce que m'a appris en fait cet épisode terrible, c'est que quel que soit en fait ce qu'on traverse, on peut relever la tête, on peut s'en sortir. C'est facile de dire on le décide, mais il faut essayer de se créer les circonstances qui sont favorables en fait pour tout ça. Moi, j'ai eu énormément de chance pour m'en sortir parce que je suis tombée sur un environnement, sur des amis extrêmement bienveillants, qui ont été une famille que j'ai choisie, sur ma marraine et mon oncle qui m'ont recueilli et qui m'ont reconstruit. Après, bien évidemment, mon épouse, mes enfants. Je crois qu'en fait, c'est l'idée de se donner droit à l'amour, en fait, qui crée la possibilité de se reconstruire. Moi, c'est comme ça que j'ai vu les choses.
Se donner le droit à l'amour. Voilà, j'aime bien qu'on termine là-dessus.
Ouais.
Merci beaucoup. Merci Yann. Il me paraît très important de rappeler le numéro de téléphone de prévention à suicide. C'est le 3114. Vous êtes concerné de près, de loin. Vous avez besoin de poser des questions. Surtout, vous n'hésitez pas. C'est extrêmement important. Merci. Je suis très, vraiment désolée pour votre maquillage parce qu'il y a quand même des traces. Quoi. Ça m'embête. Mais... Merci à toutes les deux. Ce qu'on retient aussi, c'est votre sourire. Vous pleurez, mais vous êtes lumineuse quand vous pleurez, donc vous transmettez beaucoup de choses. Merci beaucoup, vraiment.
Merci.
Embrassez les enfants. Merci Natacha, merci de nous avoir accompagnés, merci à vous d'être fidèles à France 2. Je vous souhaite de passer un bon week-end, une pensée pour nos amis anglais et tous ceux qui sont aujourd'hui dans la tristesse et la mélancolie. Nous, on se retrouve dans un instant, et puis demain, non pas demain, ce week-end. Non, pas ce week-end, c'est un bon week-end. On se retrouve lundi, je vous embrasse très fort. Passez une bonne après-midi sur France 2, prenez soin de vous surtout. Voilà, j'espère que ce podcast de Ça commence aujourd'hui vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver l'intégralité de nos émissions sur France.tv.